Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Le final du concerto pour piano opus 30 de Rimsky-Korsakov avec le Bilken Symphony Orchestra dirigé par Émile Tabakov et vous au piano. Bonsoir Jean-Philippe Collard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des noms du piano français du 20e siècle. Je dis ça parce que lorsqu'en 1964, quand vous sortez du CNSM avec votre premier prix en main, les noms sur les pochettes de disques, sur les vinyles, c'est Horowitz, c'est Rubinstein, c'est Benedetti Michelangeli. Et puis encore aussi un peu Alfred Cortot, Samson François bien sûr. Et c'est là qu'une nouvelle garde de pianistes français arrive, dont vous faites partie avec Philippe Cassard, avec François-René Duchâble, Jean-Marc Luisada, Brigitte Ingerer. Aujourd'hui, la nouvelle garde, c'est Bertrand Chamaillou, Ismaël Marguin, d'autres. Comment est-ce que... À ce moment-là, quand vous arrivez dans le métier, est-ce que c'est une faune? Est-ce que c'est une jungle? Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Comment est-ce qu'on se lance comme ça dans une vie d'artiste qui est un peu comme une vie un peu romanesque?
Oui, le risque est en effet très grand et capital pour ceux, en l'occurrence mes parents, qui m'ont conduit vers ces portes-là, vers cet avenir-là. Mais il faut remarquer qu'à cette période, vous avez bien fait de citer quelques noms, il y en a beaucoup d'autres.
Bien sûr.
Il y a une vraie bande de pianistes qui s'installent et qui bénéficient de l'effet télévision.
Ah oui.
À l'époque, il n'y a que trois chaînes, ou deux, ou trois. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Sancel qui crée son grand échiquier et qui nous met à l'antenne pendant de longues périodes, régulièrement, tous les mois, et on occupe un peu le média, ce qui nous donne une visibilité naturellement sur...
Et ça, ça a aidé les émissions de Jacques
Sancel. Énormément, énormément.
Et aussi le fait qu'il savait mélanger, il faisait des résonances, il prenait un pianiste et puis il vous faisait dialoguer avec... un rocker ou un peintre ou un écrivain.
Il n'avait pas d'exclusive, il aimait toutes les musiques. D'ailleurs, je peux ne pas altérer sa mémoire pour dire qu'en fait, il n'y connaissait pas grand-chose. Mais c'était sa grande qualité précisément, parce qu'il faisait l'intermédiaire entre ceux qui ne connaissaient pas du tout la musique et nous qui étions des professionnels. Donc il posait toujours les bonnes questions et arrivait dans les foyers français qui regardaient cette émission, ça paraissait beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Il n'y avait pas de rodomontade ou des discours ou de la musicologie et tout ça. Et vous avez raison de dire qu'il mélangeait les genres et on était bien heureux d'ailleurs de rencontrer des artistes de variété.
Comme qui? Qu'est-ce qui vous reste en mémoire?
J'ai connu Yves Duteil beaucoup à ce moment-là. J'ai rencontré Jacques Brel, j'ai rencontré des gens comme ça que je croisais sur le plateau avec qui je ne faisais pas forcément un bœuf, mais voilà, on se parlait et on savait qu'on appartenait à la même famille. Et cette famille, elle s'appelle la musique. Et la musique, écrite par Mozart ou écrite par Georges Brassens, elle a un sens, elle veut dire quelque chose et elle atteint les gens, certains, d'autres. Pas tous, etc., mais elle est multiple et c'est là où Chancel était formidable. Et ça s'est beaucoup ressenti après pour nos carrières respectives.
C'est marrant que vous parliez de Mozart parce que vous disiez qu'à l'époque où vous étiez au conservatoire, Mozart n'était pas, entre guillemets, à la mode, qu'il fallait jouer Chopin, Liszt pour en mettre plein la vue.
Oui.
Alors que Rubinstein a toujours dit « Notre Dieu à tous, Mozart !»
Oui, il avait raison. En réalité, Mozart n'était pas enseigné. D'abord, est-ce que Mozart s'enseigne?
C'est une question. On le découvre tout seul, vous pensez?
Je ne sais pas.
Pour avoir une sacrée technique, quand même.
Exactement. Enfin, je pense que c'est l'un des compositeurs les plus difficiles à jouer, précisément parce qu'il est très simple, il est très épuré, qu'il n'y a pas une note de trop.
Et il faut être régulier, c'est extrêmement compliqué.
Ouais. Ce qui privait nos professeurs de nous l'enseigner, c'était surtout que ça ne faisait aucun effet. En réalité, on cherchait tous dans les classes de piano du conservatoire à sortir un petit singe, quelqu'un d'hyper doué, qui aurait fait des galipettes sur le piano.
Mais ça n'a pas changé. Dans les conservatoires, on cherche toujours celui qui vous met plein la vue. D'ailleurs, à propos de plein la vue, puisque vous sortez un disque, deux disques à la fois, un Forêt et un Scriabine et Rimsky-Korsakov, dont on vient de... d'écouter un extrait. Il y a également un concert le 2 février au Théâtre des Champs-Élysées. Il y a une œuvre quand même de Scriabine qui en met plein la vue à chaque fois, c'est ce poème opus 72 qui s'intitule « Vers la flamme ». Moi, j'étais quand même, je suis resté sur ma faim. Le disque Riabine, je me suis dit, il ne le joue pas, Jean-Philippe Collard.
Non, je ne l'ai pas mis sur cet enregistrement parce que sans doute, il n'était pas prêt à être enregistré à l'époque où j'ai fait ce disque. Ce n'est pas récent.
Mais ça, c'est une preuve d'honnêteté parce qu'il faut toujours avoir les morceaux dans les doigts quand on les enregistre. Puis, c'est extrêmement difficile, on est d'accord.
En avoir fait le tour, surtout, parce qu'il ne s'agit pas de jouer les notes. Après, il faut savoir de quoi ça parle. Est-ce qu'on veut y mettre? Est-ce que c'est bien utile? Et tout ça. Il est probable que Vers la flamme, j'ai un petit peu hésité avant de le sortir de chez moi. C'est vraisemblable.
Alors, il n'y a pas Vers la flamme, mais il y a ce Scriabine-là, tiens. Suite numéro 12, signature d'un certain Vladimir Horowitz, il l'a encore prouvé lors de l'un de ses derniers concerts en 86 à Moscou. Est-ce que, question, et ça rejoint un peu Vers la flamme, dont il était également un peu fanat, est-ce que c'est pas risqué de jouer les signatures de quelques totems comme Horowitz?
Non, je ne jouerai plus rien. Tout le répertoire, enfin celui qu'on connaît, celui qu'on balaye, il a été ratissé, si je puis me permettre l'expression, par les plus grands artistes.
Ouais, enfin, jouer le dernier mouvement de Köchel 331, c'est-à-dire la marche turque de Mozart, et Scriabine, qu'on connaît peu, surtout sur un tube comme celui-là, qui a été ressassé par un seul artiste, est-ce que il y a quand même une différence, vous êtes d'accord avec moi?
Oui, alors je vais vous répondre autrement, votre question est parfaitement légitime. Considérons que j'ai attendu qu'il ne soit plus de ce monde pour jouer cette étude.
c'est sympathique pour lui.
En opposition, et pour répondre favorablement à ce que vous venez d'énoncer, il y a comme ça une œuvre que je considère moi comme appartenant pour la vie entière à Martha Argerich, c'est la troisième sonate de Chopin. Je ne m'y risquerai pas, en tout cas pas au disque, pour les raisons que vous venez d'évoquer, et vous avez complètement raison dans votre raisonnement. Mais on peut de temps en temps se forger une petite place quand même, bien qu'on associe telle œuvre à telle interprète, on peut se dire peut-être que j'ai ma petite chance quand même de dire quelque chose, non pas d'original, mais une œuvre que je porte en moi particulièrement. Bon, c'est vrai qu'on n'aime pas trop se comparer aux grands, parce qu'on mesure le chemin qui reste à parcourir.
Mais vous êtes grand. Vous êtes grand. Il était grand quand vous étiez, entre guillemets, petit.
Non.
Et voilà, vous êtes arrivé. Bah, attendez, la preuve, vous ne seriez pas dans cette émission si vous étiez plus grand. Qu'est-ce que je voulais dire? Scriabine, Rimsky-Korsakov, l'idée, c'est aussi de faire un peu connaître au public ces compositeurs qui sont pas forcément évident pour tout le
Alors,
monde.
Alors, deux choses. Scriabine, c'est un concerto qu'on pourrait assimiler à un concerto de répertoire qui devrait être assez commun dans les mains des pianistes. Ça n'est pas le cas, malheureusement. Moi, je trouve que c'est une œuvre remarquable. Mais là, on se heurte à la difficulté de trouver un orchestre qui accepte de vous accompagner, parce que l'orchestre ne le connaît pas non plus. Donc ça nécessite des répétitions.
D'où cet orchestre-là, le Bilken Symphony Orchestra.
Oui, qui est situé sur les hauteurs d'Ankara. Il y a une université, tout simplement, avec des musiciens qui sont la plupart des réfugiés russes.
Ah oui.
Et donc c'est là où on trouve un vrai son, et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec eux, parce que j'étais heureux comme tout. Et le Rimsky-Korsakov, c'est par curiosité. Il y avait un peu de place sur le disque, je me suis dit, tiens, ça peut être une œuvre intéressante à enregistrer.
Du rab,
petit cadeau bonus.
C'était quoi l'autre solution? C'était un bon premier concerto de Tchaïkovski ou pas forcément?
Oui, ça pouvait, non, il pouvait y avoir...
un rack 3
un rack 3.
Comme on dit dans le jargon. Alors, il y a du Fauré aussi sur un autre disque, on écoute. C'était extraordinaire quand on entend cette sixième barcarolle de Fauré, comme on voit des tableaux de Seurat, on s'imagine encore cette époque-là où on pouvait se balader près de la Seine, oui. qui ressemblait qui avait une eau cristalline. Oui. Non, il y a toute une époque en fait dans cette musique-là. Oui,
oui. C'est marqué, on va dire.
C'est très marqué.
Et c'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient, si j'ose dire, parce qu'on peut difficilement l'assimiler à la vie de tous les jours aujourd'hui. Ne serait-ce que la mettre dans les programmes, c'est une chose relativement délicate.
Parce que les gens disent « ouais ».
Oui, voilà, c'est ça. Alors, je pense que d'abord, elle n'est pas faite pour... Cette œuvre-là n'est pas faite pour des grandes salles. Elle est faite pour être jouée dans l'intimité d'un salon ou d'une toute petite salle de concert.
Vous savez qu'il y en a d'ailleurs qui utilisent des pianos de cette époque-là,
oui,
notamment
pas...
des pianos français, pour pour restituer encore plus cette ambiance dans des petits salons.
Sans doute raison, mais bon, je ne veux pas m'attacher à ça. Puis ça demanderait trop de travail, et puis un technicien, et puis beaucoup, beaucoup de choses. C'est des instruments fragiles quand même. Donc cette musique...
On a fait des progrès en matière de piano.
Oui, elle appartient à son siècle. Et elle est un petit peu difficile à transporter dans les années actuelles. C'est vraiment très compliqué. À cause de ça, sans doute. À cause de ça. Et puis, il reste aussi qu'elle est très difficile à jouer. Elle est très emmêlée. Il y a des lignes qui se dessinent un peu dans tous les sens. Les mains ne sont jamais bien confortablement installées sur le clavier. On se demande toujours un peu où on va. Il y a des dièses, des bémols, des modulations... Horowitz lui-même disait qu'il n'arrivait pas à jouer le cinquième impromptu. Et il me disait comment
faites-vous. C'est dément pour quelqu'un qui joue vers la flamme.
Oui, oui, c'est ça. Comment faites-vous pour retenir quels sont vos principes de mémorisation? J'étais incapable de lui dire quoi que ce soit d'ailleurs. Mais il y a des blocages à ce niveau-là. Donc on peut comprendre que les jeunes soient un peu rebutés par l'étude. Et puis, une fois de plus, la plupart du temps, ça se termine pianissimo dans les cintres. C'est des harmonies qui s'en vont. Comme
alors
les feuilles,
que dans les salles, on a besoin d'une. D'une explosion de feu à,
oui,
à chaque
ce qu'on peut,
morceau.
Ce qu'on peut d'ailleurs, le problème qu'on est en train d'évoquer, il devient tout simplement un problème de taille des salles de concert. Est-ce qu'on veut donner avec des pianos de plus en plus puissants suffisamment d'auditions pour 2500 personnes quand on est en train de jouer un Dandan de Schubert? Ou est-ce qu'au contraire on réduit la voilure avec des petites structures, avec des petits cachets? Et aussi, parce que l'économie en prend un coup aussi là-dedans.
Bien sûr.
Et puis on parle d'une manière intime, on délivre intimement une musique qui est intime et qui a été composée pour un groupe de personnes et pas pour des salles à n'en plus finir.
Parlez pas de malheur en matière de puissance des pianos, parce qu'il y en a certains qui disent que l'avenir, ce sont les pianos numériques. On va avoir des enceintes à peu près comme ça, on pourra mettre 5000 personnes dans une salle et votre pianiste, ce sera l'équivalent d'un... De la scène, ça sera une boîte à chaussures avec un soldat de plomb dessus. Ça sera ça la vision qu'on aura.
Heureusement, je ne verrai pas ça.
Dommage pour les futures générations. La musique française, c'est vous avez toujours aimé ça. Moi, j'ai un souvenir ému d'un disque que vous aviez enregistré avec le prélude chorale et fugue de Franck, qui est absolument incroyable. Je crois que sur le même disque, il y avait le quintet, qui est quelque chose qu'il faut écouter seul. Ou dans un train où ça va à toute vitesse, il y a quelque chose, il y a une ambiance quand même dans cette... Pourquoi cette musique française n'est pas justement aussi aimée que Chopin, Rachmaninov, les tubes?
Oui, elle est singulière, elle est difficile à aborder, et puis de plus elle était un peu mise de côté par les étudiants d'abord, par les professeurs aussi, par les concours internationaux. Elle n'est plus du tout d'actualité, c'est la raison pour laquelle moi j'ai fait une petite...
Sauf Debussy peut-être, non? Quand Michelangeli enregistre les deux cahiers des préludes...
Quand Michelangeli s'en chargeait, ça allait beaucoup mieux, parce qu'au moins, on savait que Debussy existait. C'est lui qui portait l'œuvre, en fait.
Ouais. C'était plus le disque de Michelangeli que le disque de Debussy, vous voulez dire?
Oui,
mais c'est devenu une référence, d'ailleurs. C'est devenu un maître étalon.
Mais en joue-t-on encore beaucoup, j'en suis pas persuadé. Donc, tout ce qui est création sonore, atmosphère, vent qui souffle, pluie... un petit jardin sous la pluie, des musiques d'atmosphère comme ça qui sont si difficiles à rendre au clavier, qui sont pas du tout mécaniques, pas du tout techniques, sont un peu perdues aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous allez nous fournir le 2 février au Théâtre des Champs-Élysées?
Eh bien, un petit peu de Forêt pour la musique française, la sonate funèbre de Chopin, et puis...
Donc c'est pour ça que vous jouez la deuxième, mais pas la troisième?
Ah oui, ça, je pas,
je sais pas la troisième. Et quoi
et puis Scriabine en deuxième partie, avec justement pour finir Vers la flamme.
Dont vous parlez Vers la flamme, dont il faut écouter pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est vraiment. Précipitez-vous sur les différentes plateformes de téléchargement et écoutez ça, parce que
oui,
c'est un morceau.
Oui, concert le 2, c'est mieux en direct, hein.
Par Jean-Philippe Collard. Et écoutez aussi les autres, parce qu'il y a eu d'autres qui ont joué ça, et vous allez voir, les versions sont parfois différentes. Vous avez trois quarts de siècle, cher Jean-Philippe Collard.
Oui, bientôt, pas tout.
Qu'est-ce
à fait.
Qui se passe on arrive comme ça. Je me souviens quand même de François-René Duchâble, pour d'autres raisons, qui avait balancé son piano du haut d'un hélicoptère, c'était tombé dans un lac. Bon, il y a des façons de faire de la publicité différentes, mais comment est-ce qu'on tourne la page, ou qu'on ne tourne pas la page, ou comment est-ce qu'on continue sa vie? Est-ce que...
Je ne vois pas d'inconvénient à aller jusqu'au bout, moi. Sauf accident, sauf des doigts qui se mettent à grincer.
Mais il y en a qui s'arrêtent, et vous les comprenez, ceux-là ou...
Moi, ça dépend pour quelles raisons. Il y en a qui s'arrêtent pour des mauvaises raisons. L'exemple que vous venez de citer à cet égard est plein de leçons, parce que c'est
ça nous avait choqués, hein. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années.
Extrêmement choquant, oui, extrêmement choquant. Non, je pense que la musique jusqu'au bout, jusqu'où c'est possible. La mémoire, bien sûr, la mécanique aussi, le désir d'aller sur scène. Je crois qu'on peut quand même envisager encore quelques belles années. Enfin, du moins, c'est ce que je me souhaite.
Eh bien, écoutez, on vous le souhaite et on se quitte avec cette autre étude de Scriabine qu'on écoute. Opus 8, numéro 11, Scriabine, deux disques magnifiques de Jean-Philippe Collard, l'un consacré à ses auteurs russes et l'autre à Forêt, et ce concert le 2 février prochain au Théâtre des Champs-Élysées, 19h36, dans un instant Panorama, en voiture Simone.